Bonjour. Donc, je remercie François Héron de son invitation. Je remercie Laura Audasso d'avoir organisé, non pas ma venue, mais cette conférence depuis mon bureau, effectivement, depuis Pau. J'aurais bien sûr préféré être à Paris et dialoguer avec l'assistance, avec Sylvain Laurent, mais la situation sanitaire l'exige ainsi. Donc moi, comme il a été dit, je vais développer pendant ces 40 minutes un point spécifique et un exemple de politique d'immigration. Dans le cours où il introduisait ce séminaire de cette année sur les politiques migratoires, François Héran a évoqué l'immigration de bias, donc le biais de l'immigration, c'est-à-dire notamment des chercheurs aux États-Unis qui ont mis en avant l'idée qu'on s'est beaucoup intéressé aux politiques d'immigration, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc. Et donc, comment les États ouvrent ou ferment leurs frontières, comment ils laissent ou non pas, ou pas entrer des migrants, est-ce qu'ils admettent ou pas des gens sur le marché du travail, est-ce qu'ils reconnaissent ou pas la qualité de réfugiés, comment ils expulsent, comment ils refoulent. Sylvain Laurent nous a déjà montré une partie de ces travaux qui ont été menés. Or, les politiques d'immigration, c'est-à-dire les politiques menées par les pays de départ, et je terminerai un peu sur le rôle des pays de transit, ont été quelque peu négligés. C'est-à-dire, on les a relativement peu étudiés, oubliant que ces états de départ jouent un rôle important, et pour revenir sur Abdelmalek Sayad, déjà évoqué, l'immigré est d'abord un émigré. C'est quelqu'un qui quitte une société, qui quitte un pays, et qui, très souvent, ne rompt pas complètement les liens avec son pays et sa société de départ. Et c'est, comme on va voir avec le cas portugais ici, c'est que les États d'origine n'abandonnent en aucun cas leur prétention d'imposer sur leurs ressortissants, même s'ils vivent au-delà de leurs frontières, une violence. Alors, vous connaissez la définition de Weber sur la violence physique qui est parfois exercée, il suffit de penser aux cas d'antifascistes qui ont été tués dans les années 30, mais aussi, pour reprendre les cours de Bourdieu qu'il faisait au Collège de France, sur la violence physique, c'est-à-dire un ensemble de violences symboliques que ces États exercent sur leurs ressortissants, tant sur leur territoire, mais aussi à l'étranger. Et donc, pour parler aussi comme Stéphane Dufoy, qui a travaillé ces questions dernièrement, on s'est intéressé à la transétatisation, c'est-à-dire comment des États agissent sur leurs ressortissants qui ont quitté leur pays légalement ou illégalement. Donc, on a parlé d'immigration de bias, de manque de travaux, mais il faut souvent exagérer le fait qu'il n'y a pas de travaux dans le domaine dans lequel on travaille, et parfois c'est une certaine exagération. Il y a, et là j'en ai mis que trois, mais il y en a beaucoup plus, trois travaux qui s'insèrent dans ce que Nancy Green, une historienne, qui travaille en France, a appelé le renversement du paradigme sur l'immigration. Donc c'est un article qu'elle avait publié en 2005, et qui envoie en France, aux États-Unis notamment, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, plusieurs travaux qui s'intéressent aux politiques de départ, aux politiques d'immigration. Donc là, j'ai donné un cas de celui dirigé par Nancy Green et François Weil avec différentes études de cas sur les politiques de départ. Celui qui est à droite, loin des yeux, près du cœur, les États expatriés, dirigé par Stéphane Dufoy, Karine Garamis-Kasimov et Anne de Tinguy. Là aussi, il y a différentes études de cas. Et pour parler des États-Unis et de leur important champ sur les études migratoires, le livre de David Fitzgerald sur comment le Mexique gère la migration et gère ses ressortissants aux États-Unis avec un nombre considérable d'étrangers. On peut même aller un peu plus loin que cela. C'est-à-dire que dire que ces études, cette attention sur les politiques de départ des années 2000, c'est aller un peu vite, et notamment aller un peu vite de ne pas faire attention aux études menées dans ces pays de départ, qui évidemment, et là je vais prendre le cas du Portugal, qui dès les années 60-70, alors que le flux migratoire a lieu, s'intéresse déjà à l'immigration, parce que c'est un enjeu politique, c'est un enjeu démographique, c'est un enjeu économique, et donc dès cette époque-là et jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de travaux pour comprendre les enjeux démographiques. Qui est-ce qui part? Qui part? Des hommes, des femmes, des enfants? Quels sont les effets sur la natalité, sur la mortalité, sur la fécondité? Des questions économiques et les célèbres remises financières, quel poids ont-elles? Est-ce que ces départs et l'envoi de remises, comment elles sont captées par les banques, comment les banques les utilisent, qu'est-ce que les familles des migrants font avec cet argent, mais aussi des études anthropologiques, sociologiques, sur les transformations sociales dans les manières de vivre, dans les manières de constituer une famille, dans les manières de manger, ou, là j'ai donné un exemple dans un ouvrage de 1994 sur la construction des maisons par les immigrés, donc les maisons de rêve au Portugal. Et donc, étudier aussi, c'est encore une expression de Stéphane Dufoy, la double présence, qui évidemment renvoie à l'expression de Damien Alexayad sur la double absence. Comment ces émigrés sont à la fois présents dans leur pays, leur société d'origine, leur village d'origine, et dans les pays dans lesquels ils vivent. Là, ce que, dans le temps qui m'est imparti, je vais étudier l'immigration portugaise vers la France entre 1957 et 1974. Donc, normalement, vous devez voir un tableau. Et comme vous allez le voir, vous avez, à cette époque-là, 900 000 Portugais qui sont venus en France. À la fois légalement et à la fois illégalement. La plus grande partie, environ 550 000, sont venus irrégulièrement, c'est-à-dire sans respecter le monopole des moyens légitimes de circulation transnationale qu'essayent d'imposer tous les États, et notamment l'État portugais. Et notamment, passe par... Sylvain a également évoqué les travaux de John Torpey sur le passeport. Comment, avec le passeport, les États essayent de contrôler et de gérer les migrations transnationales. Comme vous le voyez, ce flux migratoire était particulièrement important entre 69 et 71, avec des années à plus de 100 000 personnes qui entrent pour la première fois, pour la plupart, en France. Et 100 000, si on compare avec des chiffres actuels, et François Héran, dans ses cours, a beaucoup parlé des bases sur les chiffres et sur comment ils sont construits, comment on les remet en cause. Là, en l'occurrence, on voit bien que c'est entre 69 et 71, c'est quasiment 350 000 personnes qui viennent du Portugal vers la France. Ça fait plus de 100 000 par an, c'est plus qu'une la population de Pau, la ville où j'enseigne. Et sans, et comme on le verra, causer de grands débats publics sur une éventuelle invasion, ce qui... est assez intéressant, et je renvoie aussi aux travaux de Sylvain sur la construction et l'évolution du problème de l'immigration. Dès cette époque-là, dès la fin des années 60, il y a au sein de l'État français des agents qui disent qu'il faut maîtriser l'immigration, et notamment l'immigration irrégulière, qui se fait hors du cadre de l'ONU, de l'Office national d'immigration. Or, comme vous voyez, ces Portugais viennent irrégulièrement et massivement, et ce n'est pas construit comme... par un certain nombre d'agents, pas tous évidemment, comme un problème. Et à l'époque, on parle relativement peu d'immigration de sans-papiers ou d'immigration sauvage. Le terme qui est souvent utilisé pour les Portugais, c'est l'immigration spontanée, comme si elle était naturelle, inéluctable et bénéfique. Cette migration, elle se singularise par son volume, comme vous le voyez, elle se singularise aussi par les conditions, et notamment l'immigration irrégulière. C'est-à-dire qu'une grande partie de ces Portugais sont venus irrégulièrement. Et parmi ceux qui viennent irrégulièrement, certains sont venus clandestinement. Ce ne sont pas deux catégories qui se chevauchent totalement. Et surtout, jusqu'en 1965, et on y reviendra, les Portugais qui veulent venir travailler en France sont contraints de traverser les frontières entre le Portugal et l'Espagne, tout le territoire espagnol et l'Espagne, la frontière entre l'Espagne et la France, de manière clandestine, en utilisant des passeurs. Et là, c'est une des rares photographies, à l'époque on prenait moins de photographies que de nos jours, prise par un photographe d'origine haïtienne, Gérald Boncourt, qui a accompagné certains migrants et leurs passeurs dans les Pyrénées. Et le deuxième élément important, et là je garde toujours des photos de Gérald Boncourt et que François Héran a évoqué au début de la présentation, c'est... en partie à cause, mais pas seulement, mais en partie à cause de cette migration irrégulière, clandestine, c'est-à-dire que donc, ces Portugais venaient sans contrat de travail et donc leurs employeurs n'avaient pas pouvé esquiver le fait de les loger, comme ils étaient obligés de le faire en fonction de la législation de 1945, eh bien ces Portugais qui viennent massivement en France n'ont pas d'employeurs qui les logent et ils sont contraints de se loger par eux-mêmes. Donc, soit dans des bidonvilles, on a parlé du bidonville de Nanterre, la plus connue, et le bidonville de Champigny-sur-Marne, il y a aussi également ceux de Saint-Denis, d'Aubervilliers, il y en a aussi en province, à Oyonnax par exemple, dans l'Ain. Et donc ces bidonvilles, ces baraquements, ces taudis, ces baraques dans les chantiers, marque fortement cette immigration à l'époque et marque aussi beaucoup, on pourra peut-être en parler plus tard, la mémoire de l'histoire de l'immigration portugaise. Ces départs irréguliers, ils se développent dans un cadre que je dois évoquer pour que ça soit plus compréhensible, qui est le cadre de la dictature d'Antonio de Oliveira Salazar, la dictature salazariste. Salazar est arrivé au pouvoir en 1932. Il était professeur à l'université de Coimbra. En 1926, des militaires avaient organisé un coup d'État, avaient créé une dictature militaire, qui était confrontée notamment à des problèmes financiers, problèmes de dette, problèmes d'inflation, etc. Ils font appel à ce professeur spécialiste d'économie politique et Salazar devient premier ministre en 1932 et il ne quittera le pouvoir qu'en 1968. Donc il reste au pouvoir pendant 36 ans en tant que premier ministre. Et il fonde l'État nouveau, l'Estado Novo, à partir de 1933, qui est un régime dictatorial, qui est un régime policier, avec une police politique qui réprime les contestations, tant en métropole que dans les colonies. C'est un régime nationaliste qui met en avant le primat de la nation et l'unité nationale. Et c'est aussi, c'est un élément important, c'est une république corporative. C'est-à-dire que la dictature de Salazar, comme la dictature de Mussolini ou Primo de Rivera, se veut une république corporative, ni complètement capitaliste, ni surtout communiste, et prétend harmoniser les intérêts et les revendications d'un côté des travailleurs et de l'autre côté du patronat. Bon, c'est surtout un bâillonnement des revendications des travailleurs qui va avoir lieu, mais il y a toute une rhétorique corporative qui va être importante. Et cette dictature, certes, elle est dirigée pendant 36 ans par Salazar, et cette dictature, comme la plupart des dictatures, met en avant l'unité, la cohésion, la cohérence avec un dictateur fort. Salazar est souvent présenté comme un dictateur fort dans le sens où il passait son temps à gouverner, il ne sortait pas de son bureau, il n'avait pas créé de famille, il détestait les bains de foule, et donc il passait toutes ses journées dans son bureau à gouverner la politique internationale, la politique nationale, des menus détails. Mais cette dictature est loin d'être monolithique. Comme tous les États, comme l'a présenté Sylvain, il y a au sein de l'État portugais des tensions, parfois fortes, des tensions entre différents ministères, entre différents niveaux, entre différentes échelles hiérarchiques, entre les intérêts métropolitains, mais aussi les intérêts des colonies, leurs représentants. Donc c'est une dictature qui, derrière son apparence très monolithique, est travaillée par un ensemble de tensions, de débats, qui n'apparaissent pas publiquement parce qu'il y a une censure, et il faut toujours montrer le fait qu'il n'y a aucun conflit, que tout le monde obéit. Et là, ce qui va être intéressant pour l'époque que je vais étudier, c'est que les tensions jouent sur quel est l'avenir économique et géopolitique du Portugal. C'est-à-dire que Salazar, et c'est pour ça qu'il est notamment connu, est quelqu'un qui refusait la modernité, du moins publiquement, qui défendait la tradition, qui a plusieurs fois dit qu'il préfère un pays pauvre plutôt qu'un pays moderne, industrialisé. On parle du Portugal de Salazar comme d'un pays aux horloges arrêtées, d'un pays quasi médiéval. On a de nombreux témoignages de personnes qui, dans les 40, 50, voire 60, vont au Portugal et apprécient un pays où les changements industriels, d'urbanisation n'ont pas encore modifié le pays. Et donc, certains même d'anthropologues, ethnologues, s'intéressent à ce pays avec l'idée qu'il remonte un peu dans le temps, dans une période pré-moderne. Ça, c'est ce que le discours public et la propagande mettent en avant. Mais néanmoins, dès les années 30, il y a une industrialisation qui s'accélère dans les années 50 et au sein de la dictature, ce n'est pas des gens contre la dictature, au sein de la dictature, certains défendent une ouverture du pays sur les économies européennes, qui défendent l'idée que le Portugal ne peut pas rester autarcique, ne peut pas être coupé du reste des économies européennes, notamment de son principal allié, la Grande-Bretagne, et qui défendent une modernisation. Cette modernisation, elle a pour objectif, selon eux, de sauver la dictature, avec l'idée que si la population continue de s'accroître et que le Portugal reste à dominante rurale, 40% du pays, des travailleurs travaillent encore dans l'agriculture en 1960. C'est le Portugal, le pays le plus, dans ce domaine le plus en retard, si on, on pense en ces termes-là. Au sein de la dictature, il y a ceux qui défendent la modernisation pour permettre à la dictature de survivre. Et ça va avoir une implication, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que le Portugal, un peu au grand étonnement d'une partie de l'État portugais, mais aussi des diplomaties occidentales, le Portugal est membre fondateur de l'Association européenne de libre-échange, qui, pour aller vite, est l'association de libre-échange qui a été fondée autour de la Grande-Bretagne pour faire face à la CE, à l'Union européenne, à ex-CE. Et donc, le Portugal rentre dans cet espace de libre-échange et ça va avoir de grandes incidences. Ça veut dire que le Portugal, certes, négocie un ensemble d'avantages et un désarmement douanier favorable, mais cette entrée dans la FLE prévoit que, dans les années qui suivent, les fortes protections douanières qui protégeaient l'économie portugaise, et notamment qui protégeaient l'industrie portugaise, qui était en grande partie basée sur le fait que la population était très mal payée et très peu qualifiée, très nombreuse, n'avait aucun droit, pas de droit de grève, pas de droit de vote. Donc pouvait, une grande partie de l'industrie pouvait utiliser une main-d'œuvre bridée, eh bien, et était protégée de la concurrence étrangère. Eh bien, ces concurrences étrangères, ces protections face aux concurrences étrangères, va disparaître. Et là, ça va changer des éléments importants au sein de la manière dont on va penser l'économie, le rôle des individus, pour parler un peu comme Foucault, les gouvernementalités, les actions de l'État sur les actions des hommes et des différents acteurs économiques. Et cela va modifier, évidemment, la politique d'immigration. Et c'était le titre, une politique d'immigration trompe-l'œil. Ce qu'on va voir surtout dans les années 60, et là j'ai mis un ouvrage avec notamment Douglas Massey, George Orwell et Nolan Malone sur la politique américaine d'immigration qu'ils appellent l'immigration de smoke and mirrors, un peu l'idée d'une politique de vitrine où il y a une différence entre ce que les dirigeants prétendent qu'ils font et ce qui se passe réellement. Ce qu'on va essayer de voir en trois points, et je vais essayer de ne pas trop dépasser mon temps, c'est comment il y a toute une politique de vitrine qui est mise en place dans les années 60, qui n'est pas tant voulue, mais avec laquelle les dirigeants vont s'accommoder. Donc le premier point, c'est une chose qu'a déjà évoqué Sylvain, notamment à travers les travaux de Gérard Noyel, c'est ce que je vais essayer de montrer rapidement, c'est comment a été construit un problème de l'immigration. Et là, évidemment, je renvoie à ce numéro que Sylvain Rindier avec Choukri Med sur l'invention de l'immigration, notamment le premier article est signé par Gérard Noiriel sur la naissance d'un problème, un problème d'immigration. Et là, ce que je vais essayer de rapidement montrer, c'est qu'à la fin des années 50, le fait que les Portugais partent en France est construit comme un problème que l'État doit empêcher. On aurait pu penser que le fait que les gens partent ne soit pas construit comme un problème, se développe sans attirer l'attention des gouvernants, ou soit, comme il le sera un peu plus tard, ou comme dans certains pays d'immigration, soit considéré comme une solution. C'est-à-dire, si les gens peuvent partir à l'étranger, avoir de meilleurs salaires, c'est une solution pour eux et partant pour le pays. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'immigration est construite massivement comme un problème. Là aussi, je ne vais pas avoir le temps de trop développer, mais c'est ce qu'a déjà montré Sylvain, c'est que il faut sortir de cette idée que les problèmes sont évidents. C'est-à-dire que les problèmes sont construits par des individus et tous les individus ne sont pas égaux face à la construction d'un problème. Et notamment dans une dictature, comme elle est la dictature salazariste. C'est-à-dire qu'au Portugal, les travailleurs, les classes populaires ne participent quasiment pas à l'espace public. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote, une grande partie de la population ne sait pas lire, ne sait pas écrire, donc n'écrit pas ou ne lit pas dans les journaux, et il n'y a pas vraiment de canaux qui permet à la population, aux classes populaires, de présenter leurs problèmes et éventuellement de présenter ce qui est un problème ou ce qui est une solution. Ce qui va dominer au Portugal, c'est à la fois les gouvernants, leur vision du monde, mais aussi une partie des élites du pays, et notamment, je pense, aux notables ruraux, aux propriétaires de main-d'œuvre, soit du sud du pays avec les grandes exploitations, les latifundiums de la laine Tejo, ou les moyens et plus grands propriétaires du nord du pays, où là, il y a une plus grande parcellisation de la terre. Il y a beaucoup de paysans qui ont des toutes petites terres, très dispersées, mais vous avez quand même de plus grands propriétaires qui emploient des fermiers, des métayers, des journaliers, etc. Et c'est notamment eux qui vont construire ce programme de migration. Comment ils le font ? Ils le font en écrivant à Salazar, en écrivant au ministre de l'Intérieur, et j'y reviendrai, en écrivant à leurs députés, il y a une assemblée nationale, avec des députés qui sont extrêmement attentifs à la vie, à l'opinion de ces notables ruraux qui sont pour la dictature le moyen de contrôler la vie. Pensez au caciquisme, au clientélisme. Et donc, ces différents notables, ces petits industriels d'une industrie qui est dispersée dans les campagnes, dans le cadre d'une polyactivité dans le nord du pays, ils ne cessent, dès les années 50, dès la fin des années 50, alors que l'immigration revenait sur le tableau, dépasse même pas les 10 000 personnes par an vers la France, de présenter l'immigration comme un énorme problème. Et ce qui est intéressant, c'est que l'immigration vers la France est présentée comme un problème dès les années 50, alors que l'immigration de problème existait déjà un peu. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire, et ce n'est pas complètement faux, que l'immigration portugaise est relativement tardive par rapport à d'autres courants migratoires, comme l'immigration italienne, polonaise ou algérienne. Il y a le début de l'immigration portugaise en France, date de la Première Guerre mondiale. Là, je vous ai mis un document qui est la Convention franco-portugaise du 28 octobre 1916. Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais en 1916, le Portugal, pour des raisons politiques et diplomatiques, veut rentrer dans la Première Guerre mondiale. C'est le Portugal qui veut envoyer des troupes combattre les Allemands en France. Et la France obtient du Portugal, dans ce cadre-là, l'envoi de travailleurs. Et donc, il y a environ 15 000 Portugais qui viennent combattre. Et après la Première Guerre mondiale, la France essaye d'obtenir un accord de main-d'œuvre du Portugal, à l'image de ce qu'elle négocie avec l'Italie, avec la Tchécoslovaquie et la Pologne. Et là, déjà, le Grand Portugais refuse. Le Grand Portugais refuse, pour un ensemble de raisons qu'on retrouvera dans les années 60. Mais néanmoins, entre 1919 et 1931, en 1919 est créé un dépôt des travailleurs portugais à Andaï, à la frontière franco-espagnole. Et par ce dépôt, là je vous donne un exemple de sauf-conduit d'un de ces travailleurs qui vient en France, en l'occurrence en 1929, il y a 75 000 Portugais qui rentrent en France entre 1919 et 1931, qui viennent surtout travailler dans des chantiers, dans le nord de la France, des travaux peu qualifiés, très difficiles. Très souvent, ils ne restent pas longtemps en France. Mais comme on le voit, il y a le fait que le Portugal refuse de signer un accord de main-d'œuvre en 1919, montre qu'il y a déjà des réticences qui dépassent les clivages politiques et qu'on retrouve tant du temps de la République que de la dictature. Cette réticence, elle vient notamment d'une certaine vision mercantiliste de l'économie et de la société. C'est-à-dire que ça, on retrouve au XIXe siècle, on retrouve au XXe siècle, on retrouve du temps de la République, du temps de la dictature. Il y a cette idée que la principale richesse du pays, c'est le nombre d'hommes et de femmes. Et qu'il faut conserver les hommes, qu'il faut conserver les travailleurs. Et donc, dès la fin des années 50, il y a un discours extrêmement fort qui veut dire que le pays se vide de sa population, et plus particulièrement de sa population la plus active, les jeunes hommes qui partent travailler en France. Donc, dès la fin des années 50, alors que ça ne correspond pas à la réalité, c'est un discours extrêmement idéologique, il y a des descriptions d'un Portugal rural qui est complètement vide, où il n'y aurait que des femmes et des enfants. C'est extrêmement loin de la réalité. D'autre part, dans ces lettres, dans ces protestations contre l'immigration, qu'est-ce qu'on trouve ? Évidemment, ceux qui protestent ne disent pas qu'ils protestent pour défendre leur intérêt personnel, leur intérêt privé. Ils mettent en avant l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation. Et ils disent que cette immigration est un risque pour la dictature, un risque pour l'ordre. Pourquoi ? Parce que ces Portugais et ces classes populaires portugaises, elles sont dépeintes souvent comme des enfants. C'est-à-dire que ce sont de bonnes personnes, mais elles n'ont pas l'esprit critique. Et donc, en France, elles sont hors de la tutelle du curé, hors de la tutelle de l'instituteur, et elles risquent de devenir communistes, d'être embrigadées dans des syndicats. Il y a notamment la CGT qui crée en 1964 un journal qui s'appelle « Au travailleur », donc le travailleur. Et donc, on craint que ces Portugais, en France, ne reviennent communistes, ne reviennent participer à des actions contre les régimes. Et on craint notamment le fait qu'en France, il y a une présence importante et qui s'accroît au fil des années, d'exilés. D'autre part, il y a tout un discours sur la moralité. On se présente évidemment comme des êtres moraux et on présente la France comme un pays amoral. Le fait que la France est un pays où la religion a perdu de son influence, où ces immigrés sont happés par des idées matérialistes alors qu'ils devraient défendre des idées spirituelles. Je vous ai parlé tout à l'heure des maisons. On critique très fortement les maisons des immigrés en montrant qu'elles sont énormes, qu'elles ne participent pas au goût, à la tradition portugaise. Et en fait, en délégitimant ces maisons, on essaye de délégitimer leurs propriétaires, en montrant que leur assurance sociale, qui est incarnée dans ces maisons, est illégitime. Et donc c'est une crainte d'un bouleversement social provoqué par la migration. Et un des éléments importants, il y en a d'autres, mais je n'aurai pas le temps de tous les évoquer, c'est dès 1918-19, et dans les années 60, c'est défendre l'Empire. Il ne faut vraiment pas oublier, et ça c'est fondamental, que le Portugal est encore un empire, et qu'à partir de 1961, il y a ce qu'on appelle les guerres coloniales, ou les guerres anticoloniales, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, et que la dictature défend l'Empire, se défend, dit que la condition sine qua non de l'existence du Portugal est d'avoir l'Empire, c'est une mission donnée par la Providence. Et donc, il faut éviter l'immigration, parce que l'immigration enlève deux éléments fondamentaux. D'une part, elle enlève des colons, et jusqu'au 25 avril 1974, on implore, on demande, on essaye de canaliser la population qui voudrait quitter le Portugal vers les colonies, et enlève un autre type de personnes, c'est-à-dire les soldats. Il y a parmi ceux qui vont en France, il y a des déserteurs, il y a des réfractaires, il y a des insoumis, et donc on considère que cette immigration vers la France est antinationale et contre le devoir du pays. Chose que disent moins, évidemment, ceux qui critiquent l'immigration, c'est que l'immigration remet totalement en cause, donc d'une part, la hiérarchie sociale, comme j'ai déjà dit, mais aussi le système économique de domination, et la domination qui soit les travailleurs qui vivent pour la plupart misérablement. Le système économique mis en place par Salazar, donc un système corporatif, fait que l'État était extrêmement interventionniste. L'État fixe les prix, l'État réglemente l'accès aux matières premières, l'État, il faut avoir une licence pour produire, il faut avoir une licence pour augmenter sa production. Et donc c'est un système économique fortement interventionniste, pour parler comme Foucault, on voit une gouvernementalité mercantiliste, et ces propriétaires, ces petits industriels, sont complètement bouleversés parce que les profits qu'ils faisaient sont réduits, parce que comme il y a moins de travailleurs, les travailleurs peuvent obtenir ce qui reste, peuvent obtenir de meilleurs salaires. Et donc c'est sur leur marge. Quand ils disent qu'il n'y a plus de travailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même faux. En fait, ce qui manque, c'est un excédent de travailleurs qui permettait au salaire d'être bas et à ceux qui travaillaient d'être dociles. Parce que s'ils n'étaient pas dociles, suffisamment dociles, ils étaient très facilement remplacés. Bon, oui, il y a tout un ensemble de critiques qui arrivent jusqu'à Salazar, qui arrivent jusqu'au ministère, qui arrivent jusqu'à l'Assemblée nationale, etc., donc, qui est facile à retrouver et qui ne comptent même pas ces protestations qui sont dites oralement et qui sont parfois extrêmement puissantes. Et ces critiques sont d'autant plus entendues par l'État que l'institution qui est responsable de l'immigration, l'institution qui doit gérer l'immigration et notamment qui doit concéder ou pas les passeports d'émigration, parce qu'à l'époque, il y a deux types de passeports, les passeports pour les immigrés et les passeports pour les touristes. Cette institution, la junte d'émigration, elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc, ce qui montre déjà une vision relativement restrictive de l'immigration, parce que l'immigration, c'est ce qui peut remettre en cause l'ordre. C'est-à-dire, via l'immigration, la subversion peut venir de l'étranger, la subversion politique. Et très souvent, quand on parle d'immigration, on parle d'épidémie, de contagion, d'idées mauvaises, mais aussi remettre l'ordre, c'est-à-dire faire que les soutiens du régime, c'est notable, notamment, se détachent ou protestent contre l'État. Et ce que la dictature essaye d'obtenir, c'est le soutien, le maintien du soutien de ces notables ruraux qui quadrillent le territoire qu'on retrouve dans les mairies, qu'on retrouve dans différents organismes corporatifs. Et pour vous montrer l'aspect très particulier avec lequel l'immigration est perçue, cette gerbe d'immigration est non seulement au sein du ministère de l'Intérieur, mais depuis sa création en 1947, elle a toujours été dirigée par un militaire. Et donc un militaire qui, parmi leur manière de voir leurs attributions, l'idée de défendre le pays de la subversion et de surveiller, contrôler les frontières. Et donc, alors que l'immigration reste peu importante en nombre, comme je vous l'ai dit, dépasse à peine 10 000 personnes par an, dès 1961, il y a une nouvelle législation sur l'immigration, et dès 1961, l'immigration clandestine, c'est-à-dire quitter le pays sans obtenir un passeport d'immigration, est considéré comme un crime, et non plus une contravention à un délit, et les immigrés encourent jusqu'à 2 ans de prison. Et donc il y a tout un discours dès cette époque-là, notamment la police politique qui écrit quasiment des articles qui ensuite sont publiés par la presse, avec ce jeu de vitrine qui est donc la dictature prétend qu'elle lutte contre l'immigration en durcissant les peines contre les immigrés clandestins, mais aussi contre les passeurs. Et dans la presse, c'est ce qu'on pouvait trouver très fréquemment, des réseaux de passeurs démantelés par une police politique extrêmement attentive, extrêmement engagée dans la lutte contre ces réseaux de passeurs qui sont parfois liés, selon la police politique, à des réseaux internationaux. Bon, il y a un ensemble de ces passeurs qui sont présentés comme des boucs émissaires qui expliquent l'immigration. Les gens partent non pas parce qu'ils fuient la misère, mais parce que ces réseaux de passeurs et de rabatteurs font croire à la population qu'on peut avoir de meilleurs salaires en France et les amènent à émigrer. Donc il y a tout un jeu de vitrine qui est mis en place, un durcissement. Néanmoins, cette politique et ce jeu de vitrine n'empêchent pas les départs. Les départs continuent et ne cessent de s'accroître. Et le fait que ces départs continuent quand même, en dépit de ce durcissement du discours et durcissement des peines de prison contre les immigrants clandestins, va poser problème au sein de l'État portugais. Et en fait, la manière dont la junte d'immigration gère l'immigration va être considérée comme un problème et non pas une solution. Pour aller vite, il y a principalement 2 ministères avec des visions, des positions distinctes qui vont dire que l'immigration telle qu'elle est gérée à la fin des années 50 et début des années 60 pose problème. Le premier ministère, c'est le ministère des Affaires étrangères. Le rôle du ministère des Affaires étrangères, et notamment le rôle de l'ambassadeur portugais en France, c'est de préserver la bonne image du Portugal à l'étranger. Et il faut bien avoir à l'esprit que jusque dans les années 60, le Portugal est d'une part assez peu connu en France, mais la propagande portugaise, Salazar lui-même, a essayé de propager l'idée en France que c'était certes un pays pauvre, mais où la population vivait heureuse, que cette pauvreté pouvait être synonyme de bonheur, et que la population obéissait à ce moine dictateur qui était Salazar. Et notamment, il y a toute une action de publication d'ouvrages, celui-ci est un des plus connus, signé par Christine Garnier, qui est une journaliste du Figaro, journal qui était peu critique vis-à-vis de la dictature de Salazar, Vacances avec Salazar, qui a un certain succès de librairie. Et donc, les ambassadeurs, l'ambassadeur du Portugal en France a joué un rôle important dans cet ouvrage, la diplomatie portugaise, les ambassadeurs essayent d'avoir une bonne image. Et c'est important, c'est pas juste pour avoir une bonne image, c'est que le Portugal dépend de l'aide de la France pour conserver son empire. C'est notamment la France qui appuie le Portugal à l'ONU face aux attaques des pays asiatiques et africains lorsqu'ils sont indépendants. Et c'est aussi la France, jusqu'au 25 mai 1974, qui vend une partie de l'armement que le Portugal utilise dans les guerres coloniales. Et donc, pour les diplomates portugais, il est extrêmement important que l'image du Portugal ne soit pas trop mauvaise, car s'il y a une campagne de presse, si l'image du Portugal se dégrade, ça peut remettre en cause l'aide fournie par la France au Portugal. Et donc, c'est notamment l'ambassadeur du Portugal en France, qui est un proche de Salazar, qui lui écrit des lettres directement, qui dit à Salazar, on a un problème, les Portugais arrivent en France, ils arrivent clandestinement, se multiplient au début des années 60. Je vous donne juste un exemple trouvé sur l'INA. Des reportages de l'ORTF qui montrent, comme celui-ci, 45 Portugais qui sont venus en France et qui sont entassés dans un de ces camions. Il faut avoir à l'image, à l'esprit, que c'est l'image qui existait des Portugais en France, des gens qui risquent leur vie pour venir travailler en France, qui non seulement risquent leur vie pour entrer en France, donc qui s'entassent dans des camions dans des conditions déplorables, mais qui d'autre part sont là, un article du Figaro qui n'est pourtant pas le plus critique vis-à-vis de la dictature, ici sur le scandale du bidonville portugais de Champigny-sur-Marne, et ces 10 000 personnes parquées, c'est le terme qui est utilisé ici. Et donc, l'ambassade dit, soit on empêche réellement les Portugais de venir en France, on imperméabilise la frontière. Si on n'arrive pas à empêcher les Portugais de venir en France, il faut qu'ils viennent légalement, avec des contrats de travail, sans passer par les Pyrénées, sans s'entasser dans des camions, et qu'ils aient un logement qui les attend quand ils arrivent en France. Et l'autre critique, et l'autre ministère qui critique la politique d'immigration telle qu'elle est suivie, c'est le ministère des Corporations et de la Prévention sociale, qui est un titre un peu étonnant, mais qui est grosso modo un ministère du Travail. Et au sein de ce ministère du Travail, au cours des années 50, se développe un courant, qui est un courant d'économistes et de sociologues inspirés par le catholicisme social, qui vont être fortement influencés par le Concile Vatican II, et pour lesquels on ne doit pas, c'est immoral d'empêcher l'immigration. Si l'immigration est le seul moyen pour les classes populaires, pour une population pauvre, d'avoir une meilleure vie, il faut les laisser immigrer. L'État n'a pas le droit de les empêcher, donc ils reprennent toutes les évolutions de l'Église catholique sur la liberté de migrer. Ils sont aussi, pour certains d'entre eux, fortement inspirés par les politiques keynésiennes, et pour eux, la politique d'immigration doit être couplée à la politique de l'emploi. Et pour eux, il existe un sous-emploi et un chômage très important au Portugal. Pour eux, le problème du Portugal, ce n'est pas le manque de travailleurs, c'est un excédent de travailleurs. Il y a beaucoup trop de travailleurs dans l'agriculture, et pour eux, l'immigration est vue comme quelque chose de bénéfique. Ça permet de vider l'excédent de travailleurs qui sont dans les campagnes et qui vivent misérablement dans les campagnes. Ça permet d'éviter que cette population qui vit dans les campagnes n'aille pas remplir des villes comme Lisbonne ou Porto, où là aussi il y a d'énormes bidonvilles, évidemment cachées par la censure, que ces gens qui sont en trop au Portugal aillent travailler en France, d'où d'ailleurs ils peuvent envoyer des remises qui vont être extrêmement importantes pour le développement économique du pays, pour les investissements, et qui en plus, pour certains de ces agents, peuvent gagner des qualifications. C'est-à-dire que des paysans vont travailler dans des usines, dans le bâtiment, et gagner des qualifications qu'ils pourront éventuellement réutiliser plus tard. Et donc, vous voyez, avec des prémices un peu différentes, tant le ministère des Corporations que le ministère des Affaires étrangères critiquent la charte d'immigration et critiquent sa manière restrictive de voir l'immigration, d'empêcher les départs, d'empêcher la concession des passeports. Je vais essayer d'aller plus vite pour le temps qui me reste. Au Portugal, on présente souvent Salazar comme un ministre fort, je l'ai déjà dit. Or, ce qui est très étonnant, c'est qu'au milieu des années 60, Salazar, qui est déjà âgé, n'intervient quasiment pas dans le domaine de l'immigration. Il ne parle pas publiquement d'immigration. Pourquoi il n'en parle pas publiquement ? Parce que c'est, pour lui, un problème politique et idéologique majeur. Salazar s'est présenté comme celui qui a restauré la grandeur du Portugal, celui qui a réglé le problème économique du Portugal, celui qui a permis de faire du Portugal un pays stable, où la population vit confortablement, du moins, dit la propagande. Le fait que des centaines de milliers de personnes quittent le pays dans des conditions déplorables, illégalement, évidemment, remet en cause totalement ce discours du retour de la grandeur du Portugal, de la restauration. Et donc, il n'en parle pas. Parce que il y a un énorme hiatus entre ce que la propagande dit et ce que représente l'immigration. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 1963, il accepte et il permet que la France et le Portugal signent un accord d'immigration, qui est signé le 31 décembre 1963, qui est une vieille demande de la France depuis, on l'a dit, après la Première Guerre mondiale, mais de nouveau après 1945. Le Portugal a toujours refusé de signer un accord de manœuvre en temps de paix. Et là, en 1963, le Portugal accepte. Et donc, il y a un accord de manœuvre qui aurait dû mettre fin à l'immigration clandestine. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et là, les torts sont partagés. D'une part, le ministère des Corporations, la junte des migrations, pardon, la junte des migrations, qui ne voulait pas de cet accord, va tout faire pour le saboter. Elle va trouver un ensemble de chicanes administratives pour que cet accord ne se mette pas en place. Et les autorités françaises, et notamment Georges Pompidou, Premier ministre, ne vont pas vraiment favoriser cet accord, parce que dès avril 1964, Georges Pompidou, depuis Matignon, impose au ministère de l'Intérieur une circulaire qui est que tous les Portugais qui arrivent à la frontière, même sans aucun papier, puissent obtenir un récépissé qui ensuite permet leur régularisation postérieure. Donc ils obtiennent un contrat de travail, une carte de travail, une carte de séjour ultérieurement. Et c'est à partir de cette époque-là que, notamment, au lieu de passer par les montagnes, au lieu de risquer leur vie, l'immigration portugaise, bien qu'elle soit irrégulière, se concentre sur Andaye, donc il y a notamment ce livre avec des photos qui ont été prises dans la gare d'Andaye, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais regardez bien, on y voit une femme et des enfants, et ce n'est pas anodin. Dernier point, et de ma dernière partie, donc comme on le voit, on a au sein de l'État portugais une institution, la junte des migrations, qui veut éviter les départs vers la France, qui est un peu la voix et qui défend les intérêts de ce qu'on appelle, les historiens portugais appellent le bunker rural, c'est-à-dire ces grands propriétaires, ces moyens propriétaires, ces industriels du textile qui ne veulent aucun changement et qui donc critiquent le fait qu'il y ait des départs et qui essayent que l'État les empêche. Et d'un autre côté, différents ministères qui disent que soit il faut éviter l'immigration clandestine, soit il faut permettre l'immigration parce que c'est une solution. Ce qui est très intéressant au début des 60, c'est qu'au Portugal, personne ne propose de construire un mur. Alors que de nos jours, comme vous le savez, il y a des dizaines de milliers de kilomètres de murs entre pays, parfois entre quartiers, entre villes. À l'époque, dans les différentes archives que j'ai consultées, personne ne veut construire de mur. Personne ne veut complètement imperméabiliser la frontière. C'est pas que ce n'était pas possible, parce qu'en 61, comme vous le savez, la RDA, pour régler un problème similaire, construit le mur de Berlin. Si on ne pense pas à construire un mur, c'est qu'il y a une ambiguïté extrêmement forte au sein de la dictature salazariste, qui est que construire un mur montrerait quelque chose qui est pourtant réel, que la dictature salazariste est une dictature opposée à la liberté de circulation. Or, tous les textes portugais sur l'immigration prétendent que le Portugal et l'État portugais reconnaissent la liberté d'émigrer. Il faut bien avoir à l'esprit que le Portugal, à l'époque, est membre fondateur de l'OTAN, essaye d'avoir de bonnes relations avec les démocraties occidentales, dépend de la France notamment et de l'Allemagne pour mener ses guerres coloniales. Et donc, il s'agit d'éviter de faire croire que le Portugal est une dictature. Et faire un mur aurait eu des effets diplomatiques considérés comme nocifs. En fait, et ça va être ma conclusion, ce que l'on perçoit, c'est qu'au sein de la dictature, et notamment au sein de la police politique, la PID, qui est l'institution qui doit surveiller les frontières, empêcher les départs et aussi instruire les dossiers des migrants clandestins, il y a eu une sorte d'accommodement. C'est-à-dire que cette police politique, et là, ce que je dis, c'est bien des nombreux rapports que notamment le directeur de cette police politique envoie et transmet notamment au ministre de l'Intérieur, dont il dépend, et de dire « nous n'avons pas les moyens d'empêcher tous les Portugais d'émigrer vers la France ». Nous n'avons pas les moyens, puisqu'il faudrait mettre quasiment un agent sur chaque centaine de mètres de frontière, on n'a pas les moyens pour cela. La priorité, c'est les guerres coloniales et la lutte contre les communistes. Et de toute façon, ça ne sert à rien de mettre des agents à la frontière, puisque ceux qui veillent à ce que l'immigration soit moins importante, c'est l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, les Portugais qui sont sans passeport, sont des clandestins d'Espagne. Et l'Espagne, de fait, jusqu'en 1965, arrête des Portugais et les renvoie au Portugal. Pour cette police politique, elle dit que ça, c'est suffisant. Pourquoi c'est suffisant? Parce qu'un certain nombre de Portugais sont arrêtés, et le fait que l'Espagne surveille son territoire oblige les Portugais à partir clandestinement, à s'endetter pour payer les passeurs, et l'endettement est conséquent. Ça veut dire qu'un paysan portugais, c'est plusieurs mois de salaire pour peu qu'il soit salarié, dont il a besoin pour aller en France. D'autre part, donc, ils sont endettés. Quand ils arrivent en France, ils sont sans papier, ils doivent avant tout payer leurs dettes contractées vis-à-vis des passeurs, et donc ces Portugais qui sont en France, c'est, pour reprendre une expression, c'est un salariat bridé. C'est-à-dire que en France, ce qu'ils craignent, c'est d'être expulsés, c'est de perdre leur emploi, et c'est de ne pas pouvoir rentrer au Portugal. Et d'autre part, comme je voulais dire avec cette photo que vous voyez, jusqu'en 1965-66, c'est une immigration surtout masculine. C'est des hommes qui partent seuls, dans des conditions physiques difficiles, et qui laissent leurs femmes et leurs enfants au pays. Et pour la police politique, cette séparation du noyau familial est importante, parce que ça assure, d'une part, que le mari, le fiancé ou le père en France va craindre de perdre son emploi, d'être expulsé, et va craindre d'éventuelles représailles sur sa famille. Et donc, pour la police politique, ce n'est pas une stratégie qui a été planifiée, c'est plutôt un accommodement. La police politique va se rendre compte qu'il y a des avantages à cette situation, c'est que ceux qui partent prennent des risques pour partir, s'endettent pour partir, et en France, vont essayer de se tenir à l'écart de tout ce qui est la politique. Et notamment, au début, on a parlé des bidonvilles. Dans les bidonvilles, quand des militants français, quand des militants portugais essayaient de rentrer en contact avec ces portugais qui vivaient à Champigny, à Nanterre, souvent, l'idée qui revient, c'est que les gens avaient extrêmement peur parce qu'ils craignaient que les gens qui venaient les voir étaient des agents de la police politique ou des agents de Salazar. Et ces Portugais sont souvent restés en retrait de la politique, de l'action syndicale, notamment en mai-juin 68, il y a un certain nombre de Portugais qui, craignant la guerre civile au Portugal, est revenu au Portugal. Et ce qui marque à l'époque, c'est une population qui vit dans la peur, vit dans la crainte, et cela est le résultat de cette vulnérabilisation que cette émigration clandestine a permis. Et donc, je vais terminer sur ça. Comme on le voit, cette politique d'immigration est un jeu de vitrine, et ce qui aurait pu paraître comme un échec de la politique d'immigration, c'est-à-dire que les gens partent quand même irrégulièrement en France, n'était pas vraiment un échec. Ça faisait l'État portugais dans les 60 préfère que les gens partent irrégulièrement comme ça. Ça déresponsabilise le gouvernement de toute responsabilité. Ce n'est pas l'État qui organise les départs. Et cela permet de vulnérabiliser cette population en France et éviter donc d'éventuels risques politiques pour la dictature portugaise. Je vous remercie.